Et bonsoir Jean Lebrun, bonsoir à tous. C'est le début ce lundi d'une semaine sur Emmanuel Kant, rien de moins dans les nouveaux chemins de la connaissance. Aucun philosophe n'a meilleure ni plus mauvaise réputation qu'Emmanuel Kant. La hauteur de son génie est à la mesure d'un style désespérant, de phrases sans fin dont les mots qui les remplissent font presque une ligne chacun. Emmanuel Kant est pourtant accessible à tous ceux qui, philosophes ou non, se donneront la peine de surmonter leur répugnance et le sentiment que ce n'est pas écrit pour eux. C'est le pari que nous faisons cette semaine et c'est à vous qu'il appartient, chers auditeurs, de nous dire, au terme de cette traversée, si nous avons réussi ou si nous avons échoué. Suivez-nous, soyez de bonne volonté, comme dit Kant, et vous verrez bien, c'est en tout cas ce qu'il nous est permis d'espérer. Lundi, nous parlerons de la critique de la raison pure, mardi de la critique de la raison pratique, mercredi de la critique de la faculté de juger. À force de parler de critique, on dirait que cet homme n'est jamais content. Jeudi, nous parlerons de religion dans les limites de la simple raison, c'est-à-dire entre autres du mal radical. Vendredi, des opuscules sur l'histoire, c'est-à-dire de l'autonomie, de l'universel et d'un bois si courbe qu'on ne peut en faire des poutres bien droites. L'insondable difficulté de tels sujets ne permet pas qu'on s'éparpille. Il n'y aura donc qu'un seul interlocuteur cette semaine pour traverser l'œuvre entière ou presque d'Emmanuel Kant. Un seul invité donc, il s'appelle Michael Fessel. Si vous n'êtes ni lecteur de la revue Esprit, ni élève en philosophie à l'université de Dijon où il est maître de conférences, vous ne connaissez probablement pas Michael Fessel et c'est un tort. Écoutez-le et vous entendrez pourquoi les nouveaux chemins de la connaissance lui donnent tant de paroles.
Pourquoi est-ce que je suis quand même fasciné par Kant? Pour deux raisons. Il est à tellement de tournants, Kant. Pour deux raisons, c'est une raison où il instaure, il pousse jusqu'au bout quelque chose qui jusque-là n'avait pas été poussé, en fait, dans la philosophie. À savoir, il érige des tribunaux. Il érige des tribunaux, il s'est sans doute peut-être sous l'influence de la Révolution française. Mais jusqu'à maintenant, on parle toujours des concepts, j'essaie de parler des concepts comme de personnages. Avant Kant, il y a, au XVIIIe siècle, précédant Kant, il y a un type de philosophe nouveau qui se présente comme l'enquêteur. Enquête. Enquête sur l'entendement humain. Enquête sur ceci, enquête sur cela. Le philosophe se vit un peu comme un enquêteur. Encore au XVIIe siècle, par exemple, Leibniz est sans doute le dernier représentant de cette tendance, il se vit comme un avocat. Il défend une cause. Et le plus beau, c'est que Leibniz se prétend l'avocat de Dieu. Donc il faut croire que Dieu a des choses à lui reprocher à l'époque. Et il écrit un merveilleux opuscule sur la cause de Dieu, qui ne veut pas dire que Dieu est une cause au sens de... Mais la cause juridique de Dieu, la cause de Dieu défendue, etc. Hein? Donc, c'est comme un enchaînement de personnages, l'avocat, l'enquêteur, et chez Kant, l'arrivée d'un tribunal. Un tribunal de la raison. Les choses sont jugées en fonction d'un tribunal de la raison. Et les facultés au sens de l'entendement, l'imagination, la connaissance, la morale, sont mesurées en fonction d'un tribunal de la raison, bien sûr qui se sert d'une certaine méthode que Kant invente, qui est une méthode prodigieuse et qu'on appellera la méthode critique, et qui est la méthode proprement kantienne. Alors, je dois dire, tout cet aspect presque me fait un peu horreur, c'est-à-dire mais une horreur aussi fascinée, parce que c'est tellement génial. Si je reprends la question, parmi les concepts que Kant invente, et bon Dieu qu'il en invente, il y a celui de tribunal de la raison, et, qui est inséparable de la méthode critique. Mais enfin, c'est pas... Moi, je rêve plutôt de... C'est un tribunal du jugement, c'est le système du jugement. Simplement le système du jugement qui n'a plus besoin de Dieu. Un système du jugement fondé sur la raison et non plus sur Dieu.
Bonjour Michael Fessel.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue sur France Culture. On va passer toute la semaine ensemble pour parler d'Emmanuel Kant essayer de parcourir un peu, un tout petit peu, autant que faire se peut dans l'espace très bref de 5 fois 50 minutes, une œuvre aussi gigantesque que la sienne. Et on va commencer en toute humilité par la critique de la raison pure ensemble. Pourquoi pas, hein. Le pavé terrifiant, l'angoisse de tous ceux qui le tiennent dans les mains, ce livre qui fait mal au bras quand on le porte trop longtemps. Et pour cela, je voudrais qu'on parte un instant de ce que Deleuze raconte dans son abécédaire. On vient de l'entendre. Il fait cette tripartition, en fait, entre l'avocat c'est Leibniz, celui qui élabore une théodicée, celui qui veut justifier le mal qui est en ce monde et disculper Dieu du mal qui est en ce monde. L'enquêteur, il ne dit pas qui c'est l'enquêteur, mais l'enquêteur c'est Hume. C'est celui qui conduit une enquête sur l'entendement humain. Et le tribunal, donc, c'est Kant, un tribunal dont il précise qu'il repose sur la raison et non plus sur Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Ben, en effet, l'intérêt de la citation que vous avez donnée de Deleuze, c'est de replacer Kant dans un contexte historique. Il vient après Leibniz, l'avocat, après Hume, l'enquêteur, et il veut en quelque sorte en faire, si je puis dire, la synthèse, c'est-à-dire que c'est la position du juge qu'il veut occuper. La position du juge, c'est celle qui est à prima à la fois sur l'avocat de Dieu et sur l'enquêteur de l'esprit humain. Alors, c'est intéressant aussi parce que Kant, précisément, écrit un petit texte, un petit opuscule contre Leibniz sur l'idée que le philosophe ne peut pas se faire l'avocat de Dieu. Car pour être l'avocat d'une cause, il faut connaître cette cause. Et précisément, on aura certainement l'occasion d'y revenir, le résultat du tribunal de la raison, c'est qu'il n'y a pas de connaissance possible de Dieu. Alors, pourquoi le juge et qu'est-ce que cela veut dire ? D'ailleurs, je ne suis pas sûr que pour Deleuze, cela sonne comme un compliment. Hein. Il avait quelque chose de kafkaïen, très probablement, dans cette idée du juge.
Oui, il dit que ça le fascine et que ça le terrifie.
Ça le terrifie.
Parce qu'effectivement, Deleuze est le penseur d'une philosophie. Il est très spinoziste, en somme. Au lieu de juger, il exhume des mécanismes. Il ne désigne pas de coupable.
Voilà, il ne faut ni rire, ni pleurer, mais seulement connaître.
Mais seulement comprendre ou connaître.
Alors, voilà.
Alors, qu'en est-il ici ?
Eh bien, précisément, pour Kant, il faut connaître, mais avant de connaître, il faut savoir ce que nous pouvons connaître. Et c'est précisément le but du tribunal de la raison que de savoir, au fond, ce que la raison est capable de produire en termes de connaissances avant de commencer à connaître. Et d'ailleurs, la formule tribunal de la raison est une formule de Kant lui-même, il faut l'entendre aux deux sens du génitif. C'est-à-dire que la raison est en quelque sorte juge et partie. Il faut juger la raison, c'est-à-dire cette faculté de connaître qui, pour Kant, est une faculté qui a une caractéristique qui est de transgresser toujours les limites du savoir pour se porter vers ce qui est au-delà de la nature, au-delà de l'expérience, essentiellement Dieu, l'âme et le monde.
C'est la différence qu'il fait entre penser et connaître.
Voilà, entre penser et connaître. Connaître, c'est ce que nous pouvons produire en termes de savoir relativement aux phénomènes, au monde, à la nature, disons les savoirs scientifiques ou d'ordre scientifique. Penser, c'est ce qui porte la raison vers ce qui est au-delà de la nature, le suprasensible, comme le dit Kant. Et ça n'est pas la même chose dans ce sens que nous pouvons avoir une représentation de Dieu, nous pouvons avoir une représentation de l'âme, c'est ça la pensée, mais à cette représentation, à cette pensée, ne correspond pas nécessairement un objet. En tous les cas, nous ne savons pas si à cette représentation ou à cette pensée correspond un objet, en somme, si Dieu existe, si le Dieu que nous pensons existe. Alors juste un dernier mot peut-être sur cette notion de tribunal de la raison. Il est certain, si l'on veut caractériser, disons, la méthode, puisqu'après tout, même Deleuze parle de la méthode critique, la méthode kantienne, elle répond à la question quid iuris, de quel droit ? De quel droit est-ce que j'affirme que Dieu existe ? De quel droit est-ce que j'affirme que tout phénomène dans le monde est régi par la causalité ? De quel droit est-ce que j'affirme que je suis libre ou que je ne suis au contraire déterminé ? Et au fond, cette question est tout à fait centrale pour Kant parce que cela veut dire qu'avant d'affirmer quoi que ce soit, qu'avant de produire la moindre thèse sur le monde ou sur la liberté, par exemple, il faut se poser la question des conditions de possibilité d'une thèse, des conditions de possibilité d'une affirmation. Qu'est-ce qui m'autorise, en somme, à porter un jugement sur ce qui est ou sur ce qui doit être. C'est la méthode critique.
On retrouve là ce double génitif, cette ambivalence génitif, objectif et subjectif dont vous parliez tout à l'heure. Le tribunal de la raison, c'est le tribunal où la raison est juge et c'est également la raison qui elle-même passe au tribunal. Revenons un instant juste sur ce point-là. Kant est celui qui permet de penser une tendance naturelle de la raison à aller au-delà d'elle-même, à connaître au-delà de ce qu'elle peut. ce qui fait d'ailleurs de Kant avant l'heure le déconstructeur de tout scientisme. On pourrait par exemple, pour prendre un exemple, de toute tentative de science de l'histoire, par exemple, c'est-à-dire d'élaborer une science, la science exacte d'un matériau qui ne s'y prête pas.
Oui, alors concernant la science, s'il n'y a pas de science de l'histoire au sens strict chez Kant, c'est d'abord et avant tout parce que l'histoire est le fait de la liberté des hommes et que par conséquent, si l'on pense que c'est la liberté humaine qui est à la source de nos actes, il n'y a pas de science de la liberté, c'est une contradiction dans les termes, puisqu'une science, c'est ce qui suppose une explication par les causes. Et si l'on explique par les causes, bien évidemment, il n'y a plus de possibilité, on est dans le déterminisme, il n'y a plus de possibilité de sauver la liberté. Mais même plus profondément cela, vous avez parfaitement raison de dire qu'il y a une critique du scientisme au sens premier, ou appelons scientisme, si vous voulez, toutes les thèses qui consistent à penser que nos catégories, que ce par quoi nous connaissons, vaut pour l'être. Et que finalement, c'est un petit peu un modèle, disons, de la mathésis universaliste, que la science...
Mathésis universaliste, c'est l'ambition de Descartes.
Voilà, l'ambition de Descartes, c'est-à-dire l'idée qu'il y a un savoir fondamental, un savoir fondateur, modèle de tous les savoirs, et que ce savoir est d'ordre scientifique, mathématique en l'occurrence, et que par conséquent, la connaissance, disons, de la mathématique, la connaissance aussi bien de la physique mathématique, dit de l'être tout ce qu'il y a à en dire, et qu'il n'y a plus rien au-delà. C'est cela,
la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité.
Rien que la vérité, une vérité objective, c'est-à-dire au fond, il n'y aurait rien au-delà de la vérité, rien au-delà, tout à l'heure nous avons commencé avec la distinction penser-connaître, rien au-delà de la connaissance, rien qui soit susceptible d'être pensé sans être connu scientifiquement, et de ce point de vue-là, en effet, Kant s'oppose au scientisme. Relativement au tribunal de la raison, il est clair qu'il n'y aurait pas grand sens à dire que la raison se juge elle-même si on entend raison dans les deux sens, ou dans le même sens, pardon. Il y a bien deux sens, si je puis dire, de la raison. La raison jugée, la raison critiquée, c'est la raison que Kant appelle la raison dogmatique, c'est-à-dire précisément celle qui est à l'œuvre dans la métaphysique, qui pour Kant est illusoire, c'est-à-dire la métaphysique qui prétend justement accéder à une connaissance de ce qui nous dépasse, en particulier à une connaissance de Dieu.
Ce qu'on peut appeler d'ailleurs la connaissance de l'en-soi, des choses en elles-mêmes.
La connaissance des choses en soi, une connaissance ontologique, c'est-à-dire de l'être des choses qui épuiserait en quelque sorte leur être dans un concept.
Or, il n'y a pas pour Kant de connaissance indépendamment d'un sujet connaissant. De la même façon qu'il n'y a pas d'objet sans sujet.
Il n'y a pas d'objet sans sujet, il n'y a pas de connaissance sans un sujet qui connaît, il n'y a surtout pas de connaissance sans une matière sur laquelle porte cette connaissance au sens strict. Là, nous parlons bien de la connaissance scientifique, et cela suppose en particulier, c'est la thèse, disons, fondatrice, au sens où c'est le premier chapitre de la critique de la raison pure, l'esthétique transcendantale. Pour qu'il y ait connaissance, il faut qu'il y ait une donation sensible, une intuition sensible, pour être plus précis. En un sens, nous ne connaissons que ce qui est dans le temps et où, je dirais, dans l'espace, c'est-à-dire les phénomènes, ce qui peut être donné, constaté, perçu, en quelque sorte, c'est-à-dire ce qui est dans la nature. Donc il n'y a pas de connaissance de cet au-delà de l'espace et du temps, de cet au-delà de la nature, mais encore une fois, nous pouvons le penser.
De sorte que Kant est le philosophe des limites de notre connaissance. Il est celui qui nous invite, avant d'entreprendre de connaître, à ne pas céder à l'illusion de confondre ce que nous pouvons penser et ce que nous pouvons connaître. Nous pouvons penser au-delà de ce que nous pouvons connaître. Donc il faut instituer des limites.
Il faut instituer des limites qui ne sont précisément pas des bornes. Ce qui distingue, la distinction entre limites et bornes est faite explicitement par Kant dans un petit livre qui est la version simplifiée, si je puis dire, de la critique de la raison pure, les prolégomènes.
Prolégomènes à toute métaphysique future.
Voilà, qui voudra se présenter comme une science, précisément. Eh bien, dans ce texte, il fait une distinction entre la borne, qui est au fond un mur qui marque une clôture définitive, il n'y a pas d'au-delà de la borne, et ça serait précisément, on retrouverait notre enquêteur humien, si vous voulez, dont parlait Deleuze. L'empirisme, c'est celui qui marque une borne infranchissable à tout esprit. On ne peut pas connaître, disons, au-delà de ce qui nous est donné, c'est-à-dire de l'expérience sensible.
Ce qu'on appelle l'empirisme.
L'empirisme plus radical encore chez Hume, par exemple, que chez Locke, qui donc se couple immédiatement d'un scepticisme. C'est-à-dire que la vérité, en tant que vérité, est définitivement inaccessible à l'esprit humain.
Oui, puisqu'elle est toujours lestée par l'expérience que nous faisons, qui est une expérience partielle, particulière. Voilà. Et par conséquent, là, il faut faire son deuil de la vérité. Il y aurait une infinité de choses à dire sur l'influence de Hume et de Kant.
Et d'ailleurs, il y aurait aussi beaucoup de choses à dédire sur l'influence de Hume et Kant. Kant, on a beaucoup retenu, d'ailleurs, faisons un petit point d'histoire des idées. Kant a eu le malheur de dire un jour que Hume l'avait sorti de son sommeil dogmatique. Et ça a suffi pour faire de Hume, historiquement, le réveil matin de Kant, qui se levait très tôt le matin, à 5 heures le matin. mais c'est peut-être beaucoup dire. Hume a une existence propre, une autonomie. Il n'est pas réductible, probablement. Hume n'est pas le prolégomène à toute métaphysique kantienne. Mais... On clôt cette parenthèse et on en revient à la critique de la raison pure.
Oui, pour ce qui est de la critique de la raison pure, il y a quand même une chose que Kant emprunte à Hume, c'est cette idée que précisément notre connaissance, disons la connaissance scientifique que nous pouvons avoir de la nature, a besoin d'un préalable sensible. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure, le phénomène qui doit être donné dans l'espace et dans le temps. Mais, précisément, la borne n'est pas la limite. Kant, il trace des limites, c'est-à-dire qu'il y a un au-delà de ce qui est connaissable. Il y a un au-delà de ce qui est connaissable, et cet au-delà reçoit, disons, deux sens. Nous n'évoquerons aujourd'hui que le premier. Un sens théorique, c'est ce que nous pouvons penser. Nous pouvons penser Dieu. C'est ça, la critique de la raison, ce qui était établi dans le dernier chapitre, pas le dernier chapitre, le troisième chapitre de la critique de la raison pure, la dialectique transcendantale,
oui.
Là où il traite de la métaphysique.
C'est-à-dire, il traite de ces objets qu'on ne peut pas connaître, mais qu'on peut penser.
Qu'on peut penser.
Dieu, le moi, le monde.
Exactement. Et puis, il y aura surtout un deuxième sens que nous évoquerons demain. Au-delà de ce que nous pouvons connaître, il y a ce que nous devons faire. Et ça relève, disons, de la liberté et donc d'une autre forme de transcendance par rapport à la nature. Alors, les limites, ce ne sont pas les bornes, parce que tout simplement, il y a un au-delà des limites sur lequel nous pouvons porter un type de regard. Un type de regard qui n'est pas une connaissance. Et Kant, c'est celui qui introduit, finalement, un type de pensée que la métaphysique, qu'il appelle la métaphysique dogmatique, donc disons celle qui prend naissance avec... Platon et ou Descartes, si vous voulez, et qui trouvera son aboutissement dans l'esprit de Kant chez Leibniz. Cette métaphysique dogmatique, à ses yeux, réduit le domaine du pensable au domaine du connaissable, c'est-à-dire au fond à une science. Le meilleur exemple, si vous voulez, de ce paradigme scientifique ou scientiste aux yeux de Kant, c'est le fait que chez Descartes, bien sûr, chez Spinoza aussi, chez Leibniz, il y a des démonstrations de l'existence de Dieu. Comme si, par rapport à Dieu, il fallait importer en quelque sorte des procédures empruntées directement à la mathématique, une démonstration, des théorèmes, alors que Kant s'est toujours beaucoup méfié, y compris surtout d'ailleurs dans la critique de la raison pure, de ce transfert à la philosophie, et en particulier à la métaphysique, des procédures qui sont à l'œuvre dans les mathématiques ou dans la physique, tout simplement parce que nous n'avons pas affaire en physique, en mathématiques et en métaphysique a fortiori au même type d'objets.
Restons un instant, Michael Fossel, sur cette façon qu'a Kant de déconstruire les démonstrations de l'existence de Dieu. Finalement, le reproche qu'il fait à Descartes, on pourrait dire peut-être ce reproche est double. D'abord, Descartes a besoin d'une garantie divine. Je ne suis pas certain que l'expression soit de lui, d'ailleurs. Mais il a besoin d'une garantie divine pour assurer que ses idées claires et distinctes correspondent à une vérité. Pour établir cette correspondance entre la clarté et la distinction de ses idées et la vérité de ce qu'il pense, Descartes a besoin d'envisager un Dieu qui ne soit pas trompeur. Bien. Donc, ça, c'est un premier point. De sorte que Kant reprochera à Descartes de supposer résolu la question qu'elle prétend résoudre en imaginant quelle est la garantie, demandera Kant, que le Dieu en question correspond bien au Dieu dont j'ai l'idée. Donc ça, c'est une première critique. Et puis, deuxième critique de cette démonstration de l'existence de Dieu chez Descartes, Kant redoutera, enfin plus exactement reprochera à Descartes Descartes a l'idée d'un être existant nécessairement, puisque Dieu est parfait, donc il ne peut qu'exister. Et de cela, Descartes dit « Dieu existe ». Ce qui est une façon, en somme, pour Kant, d'attribuer à la pensée le pouvoir d'imposer sa loi aux choses et de considérer que ce dont j'ai l'idée comme existant nécessairement doit exister. Or, Kant dit on peut avoir l'idée d'un être existant nécessairement sans que cet être existe. Ce qui tire Kant, peut-être, du côté des philosophies de l'absurde, d'un existentialisme, où l'existence n'est pas démontrable, où on ne peut pas, en tout cas, faire de cette démonstration un objet de science.
Alors, je vais reprendre les deux aspects parce qu'ils sont distincts et qu'ils permettent tout à fait d'introduire à la critique de la raison pure. Concernant le premier, c'est-à-dire, au fond, reproche qui consisterait à dire Descartes et bien d'autres, métaphysiciens ont besoin d'une garantie transcendante pour fonder le savoir, c'est tout à fait exact de dire que cela a eu un rôle moteur, ce problème-là, dans la genèse de la critique de la raison pure. Il faut d'ailleurs dire, au passage, que Kant est né en 1724 et qu'il ne devient
60 ans.
Il devient qu'ancien très tard, puisqu'il publie la critique de la raison pure en 1781, en effet, donc à la bord de la soixantaine, pour le dire très rapidement.
Il a fait une dissertation 10 ans plus tôt.
Il a fait une dissertation 10 ans plus tôt, la dissertation de 1770, qui annonçait déjà un certain nombre de thèmes kantiens, en particulier le thème d'une irréductibilité du sensible à l'intellectuel. L'idée qu'il y a précisément, dans l'espace et dans le temps, une forme, au fond, de rationalité, tout du moins de logique, qui est irréductible à celle de la connaissance. Mais ce qui est très intéressant par rapport à cette question de la garantie divine, c'est que dans la lettre qu'on considère comme étant annonciatrice de son projet, la lettre à Marcus Hertz de 1772, Marcus Hertz était un des disciples de Kant, qui annonce le projet critique, et donc il y aura 10 ans entre cette lettre programme, si j'ose dire, et puis la publication de la critique de la raison pure, 10 ans de silence.
Il fallait au moins 10 ans.
Oui, il fallait du temps pour écrire ce livre qui se prétend révolutionnaire. Bon. Eh bien, dans cette lettre, il indique que finalement, la grande question fondamentale de la philosophie, et celle qui est la sienne, c'est celle du rapport entre la représentation en nous, j'ai en moi des idées, des concepts, des notions, et la chose hors de nous. Donc c'est une théorie de la connaissance. Comment comprendre précisément qu'il y ait entre mes concepts, entre mes représentations des choses et les choses elles-mêmes... Une correspondance qui fonde la vérité.
Pardonnez-moi, juste un point. Ce problème est d'autant plus crucial qu'il m'est impossible d'envisager le monde hors de moi. Ou indépendamment de moi, d'une certaine façon. Puisque l'expérience est une borne à ma connaissance, ou une limite à ma connaissance, je ne peux pas connaître hors de mon expérience, il est indispensable pour moi de savoir précisément dans quelle mesure les moyens de ma connaissance correspondent à ce que j'ai à connaître.
Exactement,
c'est crucial, je ne peux pas faire autrement.
Il faut trouver un rapport entre le sujet et l'objet qui permette précisément...
Puisqu'il n'y a pas d'objet sans sujet, savoir ce qu'un sujet peut dire
de l'objet. Cela, il ne le sait pas encore en 72, par contre, il dit tout de suite, dès 72, il sait ce qu'il ne veut pas comme solution. Et c'est là que je rejoins votre problème, puisqu'il dit en particulier, je refuse toutes les solutions, qu'il assigne d'ailleurs plutôt à Malebranche qu'à Descartes, peu importe, du Deus ex machina. C'est-à-dire qu'au fond, c'est Dieu qui aurait en quelque sorte, derrière la scène, organisé l'accord entre nos représentations et les choses. C'est-à-dire, au fond, et là on retrouve à Descartes, le malin génie c'est celui qui déferait cet accord, qui ferait que je serais en permanence dans l'illusion, mais le vrai Dieu, le Dieu véra, c'est celui qui ferait que ce qui est évident pour moi, mes idées, est vrai en soi, voilà, est vrai pour les choses. Donc il faut trouver une autre solution. Et je dirais que cette autre solution, c'est la critique de la raison pure elle-même, ce que Kant appelle la méthode transcendantale, ou la révolution copernicienne, tous ces termes qui sont souvent cités, sur lesquels il faudra revenir, c'est la révolution kantienne au sens strict.
Alors, Michael Fossel, je voudrais qu'on entende quelques instants d'un film de Philippe Collin, tiré d'un livre tout à fait étonnant, j'allais dire génial, presque génial, de Thomas de Quincey, ou Thomas de Quincey, comme on dit quand on fait chic, Les derniers jours d'Emmanuel Kant, qui décrit donc cet esprit si puissant, engoncé par ailleurs dans les névroses qui sont celles de son corps. Le contraste est saisissant. La scène qu'on va entendre ici est une scène dans laquelle Kant demande à un oiseleur d'abattre un arbre qui lui cache la vue depuis la fenêtre de son bureau. Et l'oiseleur, s'adressant à Kant, au professeur Kant, ne peut pas s'empêcher de philosopher, ce qui a le don d'exaspérer Kant. Et il y a notamment dans ce passage un moment où Kant dit « Je bats des ailes, mais je n'avance plus ». Or, c'est exactement ce qu'il dit de Platon dans l'introduction à la critique de la raison pure, dont on va entendre un extrait après ce film. Écoutez.
Voici, monsieur l'oiseleur, vous voyez votre pigeonnier. À proprement parler, je vois un pigeonnier, mais votre simple et profonde remarque m'invite à cette réflexion immédiate. Puis-je d'un seul regard, de cette seule sensation, embrasser et cette bâtisse et le sentiment de propriété? Que dis-je de ma propriété? Intéressant problème. Professeur, puis-je voir mon pigeonnier?
En effet, mais si vous permettez, chaque jour, chaque soir, du bureau où je travaille, tous les jours de ma vie, depuis que j'ai décidé de conduire ma pensée sans la direction de quiconque, j'aime regarder par la fenêtre et voir votre pigeonnier.
Oh, professeur, mon pigeonnier, vous le voyez, vous?
Cependant, depuis quelque temps, Vos tilleuls arrivent à me cacher la vue. Je ne vois plus votre pigeonnier. Aussi...
Cependant, vous remarquerez que d'ici, nous le voyons, mon pigeonnier.
Oui, monsieur Loiseleur. Mais il ne m'est plus doux de regarder par la fenêtre et mon travail en souffre. J'ai l'impression d'être une mouette volant contre le vent. Je bats des ailes, mais je n'avance plus. Les arbres bougent, monsieur Loiseleur, comprenez-vous? Aussi, pour calmer l'inquiétude d'un vieil homme, je viens vous demander une faveur. Voulez-vous bien abattre cet arbre?
Professeur, abattre un arbre? Professeur.
Abattre un homme, monsieur Loiseleur.
Dans la passion d'étendre sa connaissance, la raison, aveuglée par cette preuve de la puissance, croit voir le champ de l'infini s'ouvrir devant elle. La colombe légère pourrait croire, lorsqu'elle fend d'un vol rapide et libre l'air dont elle sent la résistance, qu'elle volerait plus rapidement encore dans le vide. C'est ainsi que Platon, dédaignant le monde sensible, qui tient la raison dans des bornes si étroites, se hasarde au-delà du monde, sur les ailes des idées, dans l'espace vide de l'entendement pur. Il ne voit pas qu'il n'avance pas malgré ses efforts, car il manque du point d'appui nécessaire pour pouvoir se soutenir et d'où il puisse en quelque sorte déplacer l'entendement. Mais telle est la marche ordinaire de la raison humaine, qu'elle achève son édifice le plus promptement qu'il lui est possible et recherche ensuite si le fondement en est solide. Mais parvenu à ce point, nous trouvons différents prétextes pour nous consoler du manque de solidité de notre ouvrage, ou même pour en rejeter la tardive mais périlleuse vérification.
C'est magnifique cette image de la colombe, Michael Fessel, la colombe légère qui pourrait croire, lorsqu'elle fend d'un vol rapide et libre l'air dont elle sent la résistance, qu'elle volerait plus rapidement encore dans le vide. C'est vrai que l'air, qui est la condition du vol de la colombe, qui est ce sans quoi la colombe ne volerait pas, est également, peut-être également, vécu comme une contrainte par la colombe. Il en va de même, justement, des limites de notre connaissance. Ce qui nous permet de connaître est également ce qui nous interdit de connaître au-delà de ce que nous pouvons connaître, justement. Ce qui nous interdit de connaître ce que nous pouvons éventuellement penser.
Alors, effectivement, il y a chez Kant quelque chose de l'ordre, si l'on veut, de déceptif. C'est-à-dire qu'au fond, face à nos plus grandes espérances, nous avons des déceptions dans l'ordre du savoir. Nos plus grandes espérances portent précisément sur Dieu, sur l'immortalité de l'âme. Et là, il n'y a pas de connaissance. Alors, je reviens simplement sur transcendantal. Qu'est-ce que c'est qu'une philosophie transcendantale, pour le dire simple? C'est une philosophie ou une méthode qui ne porte pas sur les objets de la connaissance. Ce n'est pas une science en ce sens. Elle ne produit pas de connaissance objective, elle n'accroît pas notre savoir. Elle porte sur les conditions de possibilité de la connaissance. Que faut-il pour produire une connaissance? Et donc c'est une sorte de pas en retrait. On rétrocède, si vous voulez, de la connaissance à ce qui la rend possible. Et pourquoi Kant fait-il cela? Pourquoi constitue-t-il une pensée transcendantale en ce sens? Eh bien...
C'est-à-dire il faut substituer le rapport de nos représentations aux choses à un rapport de nos représentations à notre faculté de connaître elle-même.
À notre faculté de connaître. Ça, c'est la révolution, en effet, copernicienne. Pour la raison qui est la suivante. Si l'on veut avoir une connaissance de Dieu, et il faut jamais oublier que pour Kant, c'est pas la science le problème, si vous voulez. Les mathématiques, la physique mathématique de Newton, tout cela fonctionne. Il n'y aura pas besoin de faire de philosophie pour fonder ce type de savoir qui sont objectifs. Le grand problème de Kant, c'est la métaphysique. Bon. Pour avoir une connaissance de Dieu, il faut d'abord savoir ce que c'est que connaître. Et si l'on peut ensuite appliquer à Dieu, ou à l'âme, ou à la liberté, les conditions même de la connaissance. Eh bien, la réponse pour Kant est négative, et c'est ça le sens, effectivement, de la révolution copernicienne. Alors, Kant prend comme métaphore, si vous voulez, Copernic, c'est-à-dire, bon, évidemment, le scientifique qui aura montré que ce n'est pas le soleil qui tourne autour de la Terre, mais la Terre qui tourne autour du soleil, pour montrer que, en réalité, quoique l'hypothèse à laquelle il fait référence, Kant, c'est la deuxième hypothèse, bon, c'est-à-dire l'hypothèse selon laquelle c'est le sujet qui tourne sur lui-même. Bon, ça veut dire que ce n'est pas l'objet, ce qui est hors de moi, la chose elle-même, qui doit me dicter les conditions c'est pas un réalisme en ce sens qui doit me dicter les conditions pour que je le connaisse, c'est le sujet qui en quelque sorte constitue l'objet. C'est ça le sens de la révolution copernicienne. Au fond, pour expliquer pourquoi à certaines de mes représentations correspondent des objets, lorsque j'ai l'objet, lorsque j'ai la représentation, si vous voulez, de cette, d'une table avec une mesure, son volume, sa grandeur, etc., pourquoi est-ce que cela correspond ? Eh bien, ce n'est pas parce que la table serait d'emblée déjà douée de cette mesure, c'est parce qu'en quelque sorte, le sujet, que Kant appelle justement le sujet transcendantal, projette sur cette matière, sur cette table, un certain nombre de catégories.
Mais
ici, la catégorie de nombre.
À ce compte-là, Michael Fossel, qu'est-ce qui distingue le sujet de ce que Kant appelle un entendement archétypique qui crée ce dont il a la représentation, c'est-à-dire un entendement divin, en somme? Qu'est-ce qui distingue l'ambition kantienne du projet ou du sentiment que peut avoir un homme qu'il est le créateur de ce qu'il voit?
Eh bien, constituer un objet, ça n'est précisément pas le créer. Parce qu'il y a quelque chose qui précède l'activité du sujet, l'activité de connaissance, ce par quoi un sujet applique.
Alors, qu'est-ce qui nous précède? Alors, qu'est-ce qui précède,
alors, ce
justement?
Ce qui précède précisément cette activité du sujet, c'est ce que Kant appelle la réceptivité, hein, ce par quoi il ouvre justement la critique.
L'intuition sensible.
Le sensible. Il y a un donné, hein, il y a quelque chose qui est donné dans la perception sensible, dans le temps d'une part, c'est-à-dire tout ce qui apparaît au sujet de manière intérieure et dans l'espace tout ce qui lui apparaît de manière extérieure, et bien cela, c'est le point de départ irrécusable, en deçà duquel il n'est d'ailleurs pas possible d'aller, hein, c'est pour ça qu'il n'y a pas de théorie de la création chez Kant. Bon, le monde sensible est toujours déjà là, en quelque sorte. Et comment est-ce que je fais d'un phénomène, de quelque chose qui apparaît, que je perçois, si vous voulez, une connaissance, un objet, donc en sens kantien, dans un sens kantien, précisément en appliquant à ce qui m'est donné de manière sensible, toujours dans l'espace ou dans le temps, en appliquant à ce qui m'est donné de manière sensible, des concepts.
Alors il faut préciser aussi que cette expérience, tout le monde l'a fait tout le temps. On peut regarder une bouteille, par exemple. Le simple fait de désigner comme bouteille ce qui nous semble une bouteille, de le reconnaître comme tel, est une façon précisément d'effectuer cette opération. Alors qu'on pourrait envisager que l'inverse, par exemple, de l'expérience kantienne, ou la déconstruction de l'expérience kantienne, c'est ce que Deleuze dirait, toujours Deleuze, hein, de la matière verbale, c'est-à-dire le moment où, à force de répéter un mot, il finit par perdre de son sens. C'est le moment où l'esprit renonce à légiférer sur ce qui l'entoure, où on sort de l'opération de synthèse, en somme.
Oui, à ceci près que lorsque je reconnais une bouteille comme étant une bouteille, je lui accole un nom qui n'est pas encore une connaissance, si vous voulez, qui est effectivement de l'ordre de la nomination usuelle.
Non, mais l'alliage, par exemple, d'un fil en tungstène, d'un socle et d'un abat-jour, et le fait que je dise lampe à la suite de tout cela, oui, est une façon pour moi de construire également l'objet, ou de
le
constituer.
Je le construis symboliquement, si vous voulez, mais cela ne correspond pas exactement à ce que Kant appelle la constitution de l'objectivité au sens scientifique. L'exemple, un des exemples nombreux qu'il prend, c'est que nous avons par exemple l'expérience tout à fait non scientifique du fait que lorsque le soleil brille, une pierre est chaude. Bon, c'est l'exemple qu'il prend dans les prolégomènes. Alors jusque-là, c'est ce que Kant appelle un jugement de perception. Nous portons des jugements relativement, si vous voulez, qui sont des jugements non scientifiques relativement à ce que nous observons. Et en effet, lorsque le soleil brille et qu'il fait chaud, la pierre elle-même se réchauffe. Quand c'est que commence la connaissance? Quand c'est qu'on passe du jugement que Kant appelle jugement de perception, les jugements les plus quotidiens, au jugement d'expérience, c'est-à-dire une véritable connaissance? Eh bien, lorsque l'on fait des rayons du soleil, la cause du réchauffement de la pierre. Et là, on introduit tout de suite un autre élément. On n'associe plus simplement le soleil, comme chez Hume, le soleil au réchauffement. C'est plus une simple association. C'est une détermination par un concept, le concept de cause. Et le concept de cause est l'un des concepts fondamentaux moteurs pour Kant, concept de l'entendement. C'est l'entendement qui produit ce concept de cause, parce qu'on ne le trouve jamais dans la nature. On ne trouvera pas le réchauffement dans les rayons eux-mêmes. Hein. C'est seulement en traçant, si vous voulez, une relation, hein, le concept de cause, c'est l'un des grands concepts de relationnel, une relation entre le soleil qui darde et les rayons qui dardent, le soleil qui darde ses rayons, pardon, et la chaleur. Et là, on introduit déjà, même à un niveau, je dirais, presque ordinaire encore, une connaissance. On affirme quelque chose. C'est cela, vous évoquiez tout à l'heure la synthèse. C'est quoi la synthèse? C'est lorsque l'on rassemble deux représentations, lorsque l'on produit une unité.
On établit une relation entre une concomitance, à l'intérieur d'une concomitance.
Une relation pour Kant nécessaire. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le soleil produira de la chaleur, cette chaleur, d'une certaine manière, se retrouvera dans la pierre.
Il faut ici, pardon. Oui. Je ne veux pas vous interrompre constamment, mais c'est vrai que c'est important pour. On a parlé de Hume tout à l'heure. Il faut ici voir dans quelle mesure, précisément, là, pour le coup, Hume est le précurseur de Kant, puisque Hume est celui qui dira, qu'il m'est impossible de dire en vérité qu'il s'agit là d'une cause. Tout ce que je puis observer, tout le travail de l'empirisme mitigé de Hume, du scepticisme mitigé de Hume, consiste à dire que je ne peux pas établir sans abus de langage le fait qu'il y ait un rapport de cause à effet là où j'observe une concomitance entre la pierre qui se réchauffe et le soleil qui brille. Or, ce que fait Kant, c'est qu'il dira que je ne peux pas le faire tant que je prétends le dire en vérité. Mais en revanche, je peux tout à fait le faire à l'instant où je le fais de façon nécessaire, sans prétendre à la vérité, mais en même temps en constituant la connaissance.
Oui, parce que aux yeux de Kant, Hume cherche la causalité là où il ne peut pas la trouver. C'est-à-dire, et d'ailleurs il ne la trouve
il
pas.
Il la cherche en soi.
Et il la cherche en soi, c'est-à-dire dans les choses. Bon. Ou en Dieu. Bon, après tout. C'est-à-dire qu'il la cherche encore là où les métaphysiciens, qui eux, évidemment, fondaient leur pensée, les métaphysiciens modernes, en tous les cas, Descartes, Spinoza, Leibniz, eux pensaient à l'idée d'une causalité intégrale. Une causalité réelle, disons. Or, la cause, comme tous les grands concepts de la connaissance, c'est ça la révolution copernicienne, il faut la chercher du côté de la subjectivité qui pense, du sujet qui pense ou du sujet qui juge. Penser, c'est juger pour Kant. Le sujet qui juge, je juge moi, en tant que sujet transcendantal, pas comme sujet de chair et de sang, hein. En tant que sujet de pensée.
Donc, sujet de pensée et non pas sujet empirique.
Encore que sujet de pensée et non pas sujet empirique, effectivement. Je
sujet en soi, on pourrait dire d'ailleurs, et non pas sujet ici
alors,
et maintenant.
Oui, sujet en soi, si vous ne l'entendez pas au sens d'une âme ou d'un cogito cartésien, c'est-à-dire certainement pas d'un être métaphysique, d'une substance métaphysique. Le sujet n'est pas une substance, pourquoi c'est une fonction. C'est la fonction qui a un.
Il n'y a pas de moi, il n'y a qu'un jeu.
Voilà, un jeu qui pense.
On pourrait dire ça, voilà. Il n'y a pas de moi au sens d'une chose pensante, comme le dit Descartes. Il n'y a qu'un jeu qui est une fonction dans son rapport au monde, d'ailleurs, se constitue tout en constituant le monde qui l'entoure.
Du fait que je pense, je ne peux pas déduire que je suis, au sens fort du terme, une chose qui pense. C'est-à-dire que l'être. De l'essence même de l'homme serait la pensée. La pensée, c'est ce qui, comme le dit Kant, accompagne chacune de mes représentations. Le sujet ne peut pas, le sujet transcendantal, hein, pardon d'employer encore ce terme, ne peut pas faire autrement que de penser ce qu'il perçoit. Et dans cette pensée-là, ou lorsque cette pensée est une connaissance, encore une fois, que fait-il? Eh bien, en quelque sorte, il applique des concepts, comme la causalité, on l'a vu tout à l'heure, mais il applique des concepts, d'une certaine manière, qu'il possède déjà, qui sont lui-même. C'est l'ensemble de ces concepts, hein, produits par l'entendement, c'est la catégorie qu'utilise Kant, l'entendement, ces concepts, ce sont le sujet. Ils sont constitutifs, si vous voulez, de l'entendement humain, un petit peu comme chez, par exemple, Leibniz. Qu'est-ce que c'est que l'entendement de Dieu? C'est l'ensemble des vérités. Bon, eh bien, pour Kant, hein, même s'il s'oppose à Leibniz sur bien des points, on peut dire que le sujet, ça n'est rien d'autre que cette activité. C'est le premier dans l'histoire de la philosophie à penser le sujet comme activité. Qu'est-ce que c'est qu'un sujet, au moins au sens théorique, et a fortiori, je dirais, au sens pratique, c'est un sujet qui agit. Dans le domaine théorique, il agit comment? Eh bien, précisément, en jugeant, en produisant des connaissances qui peuvent par ailleurs s'avérer vraies ou fausses. Mais pour connaître, pour juger, nous avons besoin de concepts que Kant appelle des concepts a priori. Qu'est-ce que ça veut dire a priori? Ils sont universels et nécessaires. Hein. La cause, le concept de cause est universel et nécessaire aux yeux de Kant, au sens où...
Quels sont les autres?
Alors, on pourrait citer la table des catégories intégralement, mais le
sans
concept
aller,
de
sans
quantité,
aller jusque-là,
le concept voilà. De quantité, la qualité, la relation dans laquelle se trouve la causalité, hein, mais aussi la substance, et puis la modalité. Bon, prenons un exemple, peut-être après la cause, qui est quand même fondamentale, parce qu'il aura des répercussions centrales sur la philosophie morale. Mais prenons un autre exemple, la quantité. Et qu'est-ce que c'est que la quantité? C'est un concept qui permet, ou une catégorie au sens kantien, qui permet simplement, enfin simplement si j'ose dire, d'appliquer à n'importe quel phénomène temporel ou spatial une mesure. C'est-à-dire que c'est finalement ce qui fonde l'application des mathématiques à la physique. C'est-à-dire l'idée que la nature est écrite en langage mathématique, qui est l'idée de Galilée, que Kant évidemment reprend via Newton, eh bien, Kant prétend fonder cette thèse en montrant en réalité que Ce qui fait que la nature est écrite en langage mathématique. Ce qui fait donc que nous pouvons avoir une connaissance absolument a priori des phénomènes naturels. Ce n'est pas Dieu. En quelque sorte, ce n'est pas Dieu qui écrit ou qui a écrit le grand livre de la nature en langage mathématique. C'est l'activité même du sujet, à savoir que si je veux connaître un phénomène physique, il faut que je le mesure. Et je ne peux le mesurer qu'à l'aide de cette catégorie dont je dispose en tant que sujet transcendantal, dont je dispose, et qui est la catégorie de quantité.
C'est ce qui fera dire à Bergson que Kant manquait d'amour, puisqu'il s'en tenait à la mesure, il s'en tenait à la quantité. Et qu'il ne pense pas à un au-delà de la quantité, ce qui pour Bergson correspond à l'amour.
Certes, dans le domaine de la physique, vous m'accorderez que l'amour dans le domaine de la physique, enfin peut-être que Bergson aurait réussi à le trouver, mais il y a quand même la catégorie de la qualité qui vient après celle de la quantité, y compris dans le domaine physique. Mais c'est vrai que nous sommes loin de tout amour, en tous les cas de tout amour divin, parce que finalement, si la nature est rationnelle, c'est-à-dire si la nature peut être l'objet d'une science qui est la physique, eh bien effectivement, pour Kant, nous ne devons, cela ne doit rien à Dieu. Hein. Au fond, ce n'est pas parce que le monde est créé par Dieu, ce n'est pas parce que le monde est création qu'il est rationnel, c'est parce que le monde, en tant que nature, est constitué par l'activité du sujet. Idée fondamentalement moderne que Kant a très bien résumée lorsqu'il dit « je ne connais des choses de manière a priori que ce que j'y ai déjà mis ».
Voilà, c'est ça, que ce que j'y mets moi-même.
Voilà, si vous voulez, on retrouverait ça même à la limite dans certaines conceptions de la physique quantique, hein, c'est-à-dire au fond, il faut toujours tenir compte du point de vue de l'observateur pour rendre compte de la rationalité. Du réel.
Le problème de la physique quantique, c'est que précisément, tout ce que j'observe est tributaire. Le phénomène observé est tributaire des conditions de son observation. De sorte qu'il me faut, là aussi, renoncer à une vérité absolue.
De manière plus radicale, certainement d'ailleurs, que dans une perspective comme celle de Kant, puisque l'observateur kantien, le sujet kantien, reste fixe, lui, hein, dans sa détermination des choses. Donc il y a toute une série, si vous voulez, de connaissances qui précèdent l'expérience pour Kant et la rendent possible. Hein. Par exemple, vous me demandiez tout à l'heure la liste des catégories. Eh bien, les dernières, c'est la modalité. Qu'est-ce que c'est que les catégories de la modalité ? Une chose, et il y en a trois, soit possible, donc non contradictoire, il est possible qu'elle soit ou qu'elle ne soit pas, soit réelle, existante, soit enfin nécessaire. Et nous savons cela de manière a priori, c'est-à-dire nous n'avons pas besoin de rencontrer les choses pour savoir qu'elles sont qu'une chose, n'importe laquelle, cette table, nous-mêmes, sommes soit contingents, pourrait ne pas être, soit nécessaire, soit simplement existant. C'est un savoir qui est en quelque sorte un savoir qui précède tous les autres, le
savoir
qui intéresse Kant.
Un savoir a priori, ce qu'il appelle un savoir a priori.
En ce sens. Et il ne peut être universel et nécessaire, c'est-à-dire il ne peut valoir pour tous et de manière nécessaire, qu'à la condition qu'il ne soit pas rencontré dans l'expérience qui, pour Kant, est contingente. Ce qu'il oppose en particulier à Hume, toujours, c'est cette idée qu'on pourrait dériver un savoir scientifique d'expériences qui sont toujours singulières. Il y a là un hiatus, un saut qui pour Kant est infranchissable. Au fond, c'est pourquoi Kant...
En somme, hein, on ne va pas chez Kant du particulier au général.
Ce n'est pas du tout une philosophie de l'abstraction.
On ne procède pas par induction, on ne s'élève pas du particulier jusqu'au général.
Sauf, on le verra, à propos du jugement esthétique, mais en tous les cas, dans le domaine de la connaissance...
Le jugement esthétique est une énigme dans le système kantien, on va y revenir.
Oui, mais pour ce qui est de la connaissance, d'une certaine manière, il faut dire que l'on part du général, c'est-à-dire de cette idée, par exemple, que le monde est régi par des causes, pour essayer d'appliquer cette loi générale, ce principe, comme dit Kant, général, au phénomène particulier qu'observe le scientifique.
Alors, je voudrais qu'on en vienne, parce que le temps passe, le temps et l'espace, avec vous, Michael Fossel, juste sur deux points, rapidement. Le début et la fin, d'ailleurs, de la critique de la raison pure. Le moment où il explique, dans sa préface à la deuxième édition de la critique de la raison pure, qu'en somme, son propos revient à ménager une place à la croyance, ménager une place à la foi. Qu'entend-il par là ? Ça, c'est la première question. Et deuxième question... Qu'entend-il quand il dit que nous ne pouvons pas avoir une connaissance de Dieu, mais qu'en revanche nous pouvons faire de Dieu un idéal régulateur, c'est-à-dire en somme quelque chose qui viendrait gouverner notre connaissance, en somme que Dieu figurerait l'idéal d'une connaissance achevée vers laquelle il nous faut tendre sans jamais y parvenir. Mais commençons par ménager une place à la foi.
Alors, On ne peut précisément pas commencer par ménager une place à la fois sans répondre d'abord à votre deuxième question, c'est-à-dire pourquoi, au fond...
Pourtant, c'est ce qu'il fait, lui.
Pourquoi, non, parce qu'il dit « j'ai dû abolir », alors une formule un peu gênante, c'est « auf et bon, hein, le dépassement quasiment, bon, que le terme qu'emploiera Hegel, mais peu importe, « abolir le savoir pour laisser une place à la foi ». Alors évidemment, ça a donné lieu à toute une série d'interprétations fidéistes, si l'on veut, hein, Kant, ça serait en quelque sorte un Pascal qui n'oserait pas se dire, hein, c'est la thèse de Nietzsche, par exemple. Bon. Alors, il faut savoir simplement de quel savoir on parle et de quelle foi on parle. Alors, revenons justement à pourquoi pas de connaissance de Dieu et donc pourquoi la foi, si vous voulez. Alors, pas de connaissance de Dieu, vous l'avez d'ailleurs, vous aviez posé la question tout à l'heure, nous ne pouvons pas avoir de connaissance de Dieu, c'est-à-dire nous ne pouvons pas démontrer l'existence de Dieu, par plus d'ailleurs que nous ne pouvons démontrer scientifiquement, je dirais, l'existence de toute chose. Parce que, c'est la formule un peu étrange de Kant, l'être, au sens d'existence, n'est pas un prédicat réel. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que ça n'est pas un prédicat qui appartient au concept de la chose. Mettons, je dis Dieu est tout-puissant, Dieu est souverain, Dieu est parfaitement bon. Ça, ce sont ses prédicats. Et puis j'ajoute, subrepticement, il existe. Bon. Eh bien, Kant s'oppose à cette opération, si vous voulez, illusoire.
Cet abus de langage.
Abus de langage qui consiste à dire, bon, il est tout-puissant et donc il existe. C'est-à-dire comme si exister était simplement une caractéristique d'une notion, d'un concept, semblable aux autres. Or, exister, aux yeux de Kant, c'est une position, c'est pas un prédicat, c'est-à-dire une chose existe dès lors qu'elle existe réellement hors du concept, si vous voulez. Bon. On ne peut pas donc déduire, et c'est là, au fond, le cœur de sa critique de la métaphysique leibnizienne ou
traditionnelle,
XVIIe siècle, on ne peut pas conclure d'un concept, d'une idée, si vous voulez, à une existence. Il y a un hiatus entre la pensée, l'ordre de la pensée, de la représentation et l'ordre de la chose. L'existence, elle est véritablement expérimentable ou elle n'est pas. Donc de Dieu, nous ne pouvons pas savoir et connaître, même si nous avons par ailleurs une représentation de ses attributs, qu'il existe ou qu'il n'existe pas, d'ailleurs. Hein, donc il n'y a pas plus d'athéisme fondé et démontré que de croyance démontrée. Alors, j'ai dû abolir le savoir, dit Kant. Le savoir qu'il a aboli, c'est ce pseudo-savoir de la métaphysique qui prétend justement tout déduire de l'essence, ne jamais sortir de l'esprit pour arriver à rejoindre le monde. Pour Kant, si on veut rejoindre le monde, et même Dieu en un sens, il faut sortir de l'esprit. Bon. Alors, il a aboli le savoir, non pas en tant que science, mais en tant que... Au contraire, il l'a fondé, celui-là. Mais il a aboli le savoir en tant que savoir illusoire de la métaphysique. Hein. On évoquait tout à l'heure le texte de la colombe platonicienne. La foi, et cela, ça nous fait déjà transition vers l'aspect pratique, la foi qu'il a fallu, qui du coup se voit libérer un espace, ça n'est pas du tout la foi pascalienne. C'est pas la foi, je dirais, d'abord, c'est pas la foi dans un dieu chrétien spécifiquement, c'est la croyance que Kant appelle la croyance rationnelle. En somme, ce que je ne peux connaître avec certitude, je peux néanmoins l'espérer. L'une des grandes questions fondamentales de la philosophie kantienne, c'est que m'est-il permis d'espérer? Eh bien, je peux espérer, au sens de « je peux penser hein, », au-delà de ce qui peut être connu ou ne peut pas l'être, en sorte que, finalement, ça n'est pas tellement la foi. Alors, évidemment, le problème, c'est qu'en allemand, il n'y a qu'un seul mot « glaube » pour dire « foi » et « croyance ». Alors, au moins, les traducteurs, peut-être un peu perfides à l'égard de Kant, ont choisi « foi ». Mais ici, il s'agit d'une croyance rationnelle qui, et c'est le point fondamental que nous évoquerons certainement demain, part d'un type de savoir particulier, qui est celui de la liberté. Au fond, le trajet de Kant, c'est « je suis libre », et non pas « donc Dieu existe », parce que ça, cette transition-là est tout aussi impossible que celle de la preuve ontologique de l'existence de Dieu. « Je suis libre, donc il m'est permis d'espérer que Dieu existe ». Alors, dit comme cela, c'est très énigmatique, mais c'est le mouvement même de la philosophie morale de Kant.
Merci Michael Fossel. On se retrouve demain pour parler de critique de la raison pratique. Vous êtes philosophe, ça on l'avait compris. Vous êtes maître de conférences à l'Université de Bourgogne, à Dijon, spécialiste de philosophie allemande et de philosophie politique. On l'avait compris également.
Je rappelle aussi, sous la musique électro-acoustique de François Connac, que vous êtes l'auteur, Michael Fossel, d'une anthologie sur Paul Ricoeur, une anthologie de Paul Ricoeur, parue en Point Seuil en 2007, d'un ouvrage sur Kant remarquable, intitulé Kant et l'équivoque du monde, aux éditions du CNRS, et d'un dernier livre récent, paru en 2008 au Seuil, intitulé La privation de l'intime. Mais François Connac me rappelle opportunément que la musique qu'il vient de sélectionner s'appelle Noumena. Aucun titre ne correspond mieux à ce dont nous venons de parler, c'est-à-dire de la critique de la raison pure que vous trouvez, chers auditeurs, par exemple, en Garnier Flammarion. Alors, toutes les émissions de cette semaine, à commencer par celle-ci, évidemment, sont podcastables, comme on dit, sur notre site internet à la page des Nouveaux Chemins de la Connaissance. À la technique aujourd'hui, Alain Joubert, à la réalisation François Connac, assistante et collaboration Geneviève Méric, Jennifer Murzeau et Adèle Van Rett, à qui vous devez le choix des extraits comme le choix de l'invité. France Culture, il est 17h50, tout de suite Albert Jacquard.